Salut Daniel, c'est une beurette de 16 ans qui est d'origine algérienne, qui téléphone. J'ai écouté ton émission sur ce jour terrible d'octobre 61. Et en écoutant l'émission, j'en ai pleuré parce que je comprends le silence de mes parents. Parce que parfois les silences disent beaucoup. Parler des fois, ça ne raconte pas les choses, mais les silences terribles font plus mal que les mots des fois. Surtout quand on a 16 ans et puis quand on ne comprend pas certaines choses. Quand j'ai écouté l'émission, les mots de Gestapo me sont venus à l'esprit, occupation. C'est les premiers mots. Le Veldiv, quand tu en as parlé dans ton reportage, en disant que apparemment ça ne dérangeait pas ces policiers. Moi, ce que je me demande, c'est le gouvernement a demandé pardon au peuple juif plusieurs décennies après ce qui s'est passé. Dans combien de temps est-ce que le gouvernement français demandera pardon pour ce qui a été commis? Et je pense que tant que ça ne sera pas fait dans l'inconscient des gens, pour eux, ce sera normal, en fait. Ce sera une page, et on tourne, et on passe à autre chose. J'espère vraiment que ton reportage aura ouvert les yeux, l'esprit de ceux qui sont crédules et qui gobent tout.
Bonjour, Jean-Pierre, du secteur de Bressuire, dans les Deux-Sèvres. J'ai été incorporé en novembre 1963, malgré moi, au 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine à Bayonne. J'étais un des rares appelés parmi les engagés. À l'époque, il était difficile d'être sursitaire et encore plus de se faire réformer. Le temps de mes classes a été horrible. Je ne parle pas de l'entraînement sportif intensif auquel nous étions soumis, mais au cours de cet entraînement, il ne se passait pas une demi-heure sans qu'un connard de gradé qui avait fait l'Algérie, voire l'Indochine pour les vieux juteux, nous assène de ses propos « Vous êtes les plus grands, les plus forts, les meilleurs !» Et à la fin de ses propos, il posait toujours et rituellement la question « Qu'est-ce qu'un arabe ?» Et il fallait que nous répondions en cœur « De la merde !» Il est évident que si l'un d'entre nous ne participait pas à ce cœur, il se retrouvait en salle de police, c'est-à-dire en tôle, au moins pour 48 heures, sans parler des autres brimades à longueur de journée. C'était en 1963 et 1964, au 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine, à Bayonne, où il n'y avait pas que des têtes brûlées, heureusement. Il y avait quelques appelés qui étaient là par accident, parce qu'ils étaient considérés un peu comme réfractaires. Il fallait bien les remettre dans le droit chemin.
Oui, salut Daniel, c'est Jean à l'appareil de Montreuil dans le 93. Je voulais apporter une petite précision suite aux différents messages d'auditeurs qui ont évoqué la question de la ratonnade de Metz. Alors effectivement, j'ai trouvé des choses et il y a eu effectivement ce qu'on appelle une nuit sanglante à Metz dans la nuit du 24 au 25 juillet 1961, soit 3 mois avant les événements de Paris. Et a priori, c'est un groupe de parachutistes qui a envahi le quartier algérien de la ville, histoire de mettre les ratons à la baille. Voilà. Ce régiment, c'était le premier RCP qui avait été rapatrié d'Alger en juillet et qui s'était installé à Moulins-les-Metz, précisément, le 11 juillet 61. Voilà. J'espère que ça fera avancer un petit peu l'affaire et que ça permettra à certains de se rappeler des pages pas forcément glorieuses, mais ô combien utiles. Voilà. Merci à tout ce que vous faites, en tout cas, pour tout ce que vous faites. Et bonne continuation.
Eh ben oui, des pages pas forcément glorieuses. Vous êtes nombreux à avoir laissé des messages sur le répondeur autour de cette affaire de Metz, de cette ratonnade. balancer des ratons à la baille, selon l'expression de cet auditeur. C'est tout à fait un argot de l'époque. Et il y a tout un tas de messages, de témoins, qui j'en ai entendu parler. J'ai vu, je peux apporter des précisions, etc. Et comme le dit cet auditeur, donc dans les archives du Républicain Lorrain de l'époque, on doit trouver des traces de ces événements. Il y a peut-être des auditeurs qui ont encore d'autres messages. En tous les cas, c'est intéressant, c'est important. J'avais jamais entendu parler de cette histoire. Aujourd'hui, une autre histoire. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, cette vieille dame à Toulon, cette vieille dame de 80 ans qui a été expulsée un beau matin de son appartement, de sa maison, la maison qu'elle habite à Toulon. Alors, grande émotion de voir les forces de l'ordre, huissiers, serruriers, policiers, pompiers, évacuer cette dame, expulser cette vieille dame. Indignation générale, et on a voulu savoir qu'est-ce que c'était que cette histoire. Et c'est cette histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui. C'est Olivia Gesberg qui est descendue à Toulon pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait derrière cet acte absolument indigne d'expulser une vieille dame. C'est notre sujet du jour. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base, j'y suis 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, Patrick de Pipriac et Lévienne. Ce soir, notre collectif organise une manifestation pour empêcher l'expulsion de deux enfants géorgiens, Anna et Sandro, et ainsi que leur papa. Leur maman a disparu. Madame la préfète d'Ille-et-Vilaine, Madame Malgorn, vient de leur signifier leur reconduite à la frontière. Ces deux enfants sont scolarisés depuis 3 ans et vivent parmi nous. Leur scolarité est exemplaire. Ils ont le droit d'asile. Ils peuvent avoir le droit d'asile. Ils ont erré pendant des heures et des heures et des jours en Belgique et en Allemagne. Ils ont atteint avec nous une certaine stabilité. Madame Malgorn s'en fiche et s'empresse à présent de les reconduire à la frontière. J'ai honte ce soir, Daniel. J'ai honte. La France n'est plus une terre d'asile. C'était Patrick.
Oui, allô Daniel. Ouais, ben c'est Nicolas de Marseille, 23 ans. Ton émission aujourd'hui, c'était comme si j'y étais. Je respecte les hommes comme Charlie Bauer, parce qu'ils auraient pu être très bien mon grand-père ou mon oncle ou mon père ou n'importe qui d'autre. Faudrait que le peuple se lave et qu'on arrête de se faire opprimer comme ça, parce que ça devient trop dur maintenant. Voilà, je parle pour tous les gens qui sont dans la misère, tous les gens qui galèrent tous les jours, tous les gens qu'on critique tous les jours, tous les gens qu'on abaisse tous les jours. La résistance, elle est là, elle est dans notre cœur.
Non, mais c'est une machination.
Non, nous voyons arriver, par exemple, dans les bureaux de la préfecture, chaque année à peu près 1000 dossiers. Et sur ces 1000 dossiers, il y en a à peu près la moitié pour laquelle il y a une demande de concours de la force publique. Et au total, c'est le cas en 2004, il y a une centaine de concours de la force publique qui sont autorisés.
Et vous, ça va, c'est pas l'opéra, mais ça va, oui, ça va, ça va.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Olivia Gesberg, l'expulsion.
Flight number 2, arriving from New York.
8h30 ce matin à Toulon, huissiers et forces de police sont venus expulser une dame de 80 ans. La vieille femme s'était portée caution pour son fils qui a fait faillite. Sa maison vient donc d'être vendue aux enchères. Comme elle est cardiaque, médecins et pompiers sont là pour l'accompagner dans ce départ forcé. Elle refuse de sortir, alors on fait appel à un serrurier. 11h, sa porte est ouverte, elle est seule dans le couloir avec son chien.
C'est à Saint-Pé. Le reste, c'est à Saint-Pé.
Monsieur du monde, voilà, lisez ça. Tout le monde a lisé ça. Prenez, lisez ça, tout le monde.
Quelques amis sont là pour la soutenir. Certains tentent une dernière fois d'appeler le maire de Toulon, ancien ministre délégué aux personnes âgées.
Monsieur Pelcon nous a dit qu'il se rappelait du dossier et qu'on n'expulsait pas une dame de 80 ans, une dame âgée.
Sans résultat, seul espoir d'après l'avocate que quelqu'un se manifeste pour acheter la maison vendue à des spéculateurs immobiliers.
Maire, préfet, commissaire, policier, pompier, huissier, serrurier, il y a dans notre pays des hommes qui ne manquent pas de courage ni de fermeté avec les délinquants dès qu'il s'agit de faire respecter la loi. On devine à l'avance la chanson « Je fais mon métier et j'essaie de le faire correctement. Si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. » Et puis, il faut bien quelqu'un pour faire appliquer et faire respecter la loi. S'il n'y a plus de loi, alors, droit dans leurs bottes, ils ont ce matin-là, ce lundi 10 octobre, à 8h30 du matin, expulsé cette vieille dame de 80 ans. Indignation général, dans le voisinage, dans la bonne ville de Toulon et à travers, évidemment, tout le pays. Comment cela est-il possible? On a voulu savoir pourquoi, comment cette chose-là avait été possible et donc on est allé enquêter avec Olivia Gesbert sur cette affaire. Mais il n'en reste pas moins qu'évidemment, a priori, cet acte et ce geste est absolument indigne. Alors on va voir comment on a essayé d'arranger les choses, comment, sous quelle pression, sous quels ordres les choses ont évolué. C'est notre histoire d'aujourd'hui, jusqu'à 18h, là-bas, si j'y suis, l'expulsion.
Ça va, ça va, ça va, ça va, c'est pas la Java, mais ça va, ça va. Et vous, ça va, c'est pas l'opéra, mais ça va, oui, ça va, ça va, ça va. C'est pas la Java, mais ça va, et vous, ça va, ça va. C'est pas l'opéra, mais ça va, oui, ça va,
ça va, ça va. C'est pas la Java, mais ça va, ça va, et vous, ça va. C'est pas l'opéra, mais ça va, oui, ça va. Et le dos, oh ça, il faut faire avec, c'est toujours pareil. Le haut, le bas, il faut du temps sec, du soleil. Ça va, ça va, un peu de coryza, mais ça va, oui, ça va. Et vous, ça va, toujours l'eczéma, mais ça va, oui, ça va. Et un, par ça, on veut m'opérer de l'arthrose de la hanche. Oh là là, cher ami, moi c'est pire, entre nous c'est l'arthrose. Dis-nous, avec l'âge, chacun ses petites misères. Et là, s'il n'y a pas grand-chose à faire, ronger son frein, aller son chemin, et chanter quand on rencontre un voisin.
Ça va, ça va, c'est pas le jardin, mais ça va, ça va. Et vous, ça va, c'est pas le père, mais ça va, mais ça va.
Et la goutte, oh ça, un peu trop duré, il faut donc durer. Et vous, le diabète, il faut surveiller son assiette. Ça va, ça va, pas de malaria, parfois la tourista. Et vous, ça va, l'influenza, j'ai guéri le tenir les dents. Ah ça, c'est pas évident, on veut me faire des implants. Là là, cher ami, moi je touche, je m'arrête, je change mes jaquettes.
Ça va, ça va, c'est pas le Java, mais ça va, ça va. Et vous, ça va, c'est pas l'opéra, mais ça va, oui, ça va,
ça va.
C'est pas le Java, mais ça va, ça va. Et vous, ça va, c'est pas l'opéra, mais ça va, oui, ça va,
ça va.
C'est pas le Java, mais ça va, ça va. Et vous, ça va, c'est pas l'opéra, mais ça va, oui, ça va,
ça va,
ça va. C'est pas le Java, mais ça va, ça va. Et vous, ça va, c'est pas l'opéra, mais ça va.
Je vais dire qu'ils n'ont pas ménagé.
Il y avait du monde, hein, j'ai l'impression.
Ouais, il y avait du monde, mais ils n'ont quand même pas ménagé. Et il y avait des gens qui étaient venus de l'extérieur, qui avaient vu ça sur le journal. Il y avait l'association protectrice des animaux qui était venue. Et puis il y avait tous les voisins. Et puis il y avait des petites mamies qui arrivaient d'ailleurs, hein, qui avaient vu. Hein.
Ouais. Il était quelle heure?
8h30.
Alors qui est venu ce jour-là exactement?
Le commissaire, accompagné de
trois policiers et l'huissier.
Mais elle n'était pas bien, quoi. Donc, parce qu'on a compris dedans, elle n'était pas bien. Nous, on l'a pas vue, on pouvait pas rentrer.
Hein. Et un serrurier.
Et une serrurier.
Ça a duré près de 2 heures avant qu'elle accepte de sortir. Ah,
2 heures quand même.
Ah, oui.
Déjà le serrurier, il a quand même mis une petite demi-heure à ouvrir, quoi, à peu près. Parce que bon, apparemment, ils avaient un peu fermé de dedans.
Sa petite Lily qui l'a suivie.
Sa petite Lily qui l'a suivie.
La chienne.
La chienne, ouais. Et qui la quitte pas.
Je pense que l'issue devrait être, j'espère, bonne, parce que pratiquement toutes les bonnes volontés sont réunies pour en arriver là, quoi. C'est que l'argent qui gouverne maintenant cette histoire. C'est fini. Donc après, il suffit de payer, puis elle pourra retrouver sa maison.
Ouvrir un peu le porte-monnaie, quoi. Alors, il faut le faire, ce geste.
Moi, j'y crois pas. Moi, je dis qu'ils la remettront pas la même en tant que locataire. Moi, franchement, j'y crois pas. Moi, quand j'ai vu l'article ce matin du préfet, j'ai dit à mon mari, c'est fini. Ils la remettront pas, même locataire. Allez, on remonte, nous.
Émotion, indignation. Par exemple, l'émotion du maire de Toulon. Il a dû être ému, le maire de Toulon. Mais c'est pas la première fois qu'il est ému, le maire de Toulon, devant les problèmes des personnes âgées, puisque il s'appelle Monsieur Falco et il était secrétaire d'État aux personnes âgées. Quand ça, eh bien, dans cet été de la canicule, souvenez-vous, 15 000 personnes âgées avaient trouvé le terme de leur vie. Au cours de cet été, et on a eu des problèmes un petit peu sur la gestion de cette canicule. Donc voilà, c'est une des personnes qui a dû être émue, qui bien sûr n'y pouvait rien, mais il y en a beaucoup d'autres qui n'y pouvaient rien d'autre que d'appliquer strictement la loi. La loi doit être appliquée, elle devait être appliquée, elle a été appliquée. À qui ? À Marie-Françoise Bonanato, que voici.
Oui. Oui, oui. Le lundi, la police n'a pas osé. Et les pompiers n'ont pas osé me prendre en poids. J'étais dans un état lamentable. Ils ont demandé à mes enfants et qu'ils me demandent de les suivre et que je regagnerai ma maison rapidement. Mais je vois que c'est difficile parce que les autres résistent. C'est ça qui me fait de la peine. C'est ça. Et ils ont forcé les portes. Oui. Et une porte que j'ai oublié de barricader, ils sont rentrés en 2 secondes. Alors là, le choc. Mais là, la porte d'entrée, je l'avais barricadée. C'était pire que les barricades de Paris. Mais il aurait fallu un canon pour rentrer. Et alors là, en 2 secondes, je me les suis vus devant. Alors là, je vous dis pas ma réaction. C'était quelque chose d'impossible à supporter. Encore, je dois dire que le commissaire ne m'a pas brusqué. Ils comprennent ma situation et ils la connaissent très bien. Mais malheureusement, ils avaient des ordres. Et ces ordres, ils pouvaient pas ne pas les exécuter. Il m'était impossible, ma tête tournait, tout tournait, je savais plus où j'étais. Je croyais être sur un manège. Je savais plus. Et puis voilà.
Alors là, depuis, vous habitez dans le deux pièces de votre fille, Gisèle, c'est bien ça? Un joli deux pièces avec une chambre et un salon. Et vous êtes là en attendant depuis 5 jours.
En attendant, avec le grand espoir de pouvoir réintégrer ma maison, quand la justice aura fait son travail. Je demande rien d'autre. Je demande la solution juste, vraie. Voilà.
Petitement logé. C'est...
Là, j'ai vu que vous avez qu'une chambre, vous dormez
qu'une
où
chambre. Ben, en ce moment, je dors à côté d'elle, avec son chien qui rentre dans le lit.
Et vous, vous travaillez?
Non, en ce moment, je ne travaille plus.
Gisèle, la fille.
Parce que je ne pourrais pas gérer le travail et cette vie-là. Non, je ne
vous
travaille
vivez de quoi,
plus. En ce moment, je suis aux assédiques, mais je suis en fin de droit et je vais avoir ma retraite.
Vous c'est quoi?
Coiffeuse pendant 40 ans.
En parlant un peu avec les gens dans les rues à Toulon, beaucoup mettent toute cette affaire pas mal sur le dos de votre frère, parce qu'ils estiment qu'il n'aurait pas dû engager votre mère
aussi loin. J'en veux un peu parce qu'il met ma mère dans cette situation. Donc lui, bon, je pense que des fois, il a pas trop de sagesse.
Parfois déraisonnable, mais jamais méchant, c'est papa.
Ah oui, non, jamais méchant, non, jamais violent, non, non, non. Il a jamais forcé ma mère à faire quoi que ce soit. Hein. Il a jamais forcé ma mère à signer des papiers pour se faire faire des prêts. Hein. C'est elle qui l'a fait de son bon gré, ça. Il faut bien être très contente d'ailleurs.
Mais dites-moi d'abord, c'est qui sur toutes les photos qui sont là dans la chambre de Gisèle où vous habitez en ce moment dans son petit deux-pièces?
Dans la chambre de Gisèle, les derniers mots, c'est les siens, c'est les miens.
C'est ça, c'est mon petit fils de Gisèle. Ah.
C'est mon fils.
Et cette vieille photo de mariage, qu'est-ce que c'est? C'est vous?
Oh. 5 ans après, je divorçais. Alors, je me mariais à 17 ans, à 23 ans, je divorçais. Eh ben, ça a pas marché parce que moi, il faut dire que j'étais une fille gâtée et que j'admettais rien. Il fallait que tout aille comme je voulais. Il était parti, soi-disant, un mois à la chasse. Et puis, j'ai su par la suite qu'il n'était pas allé pendant un mois à la chasse, qu'il avait une liaison.
Oh.
Alors, moi, ça, vexé, j'ai pas discuté. Sur la seconde, que j'ai eu le doute, appelle un taxi, prends mes 2 enfants au bras, et m'en vais. J'ai quitté Raymond, Roger. Alors, ma mère me dit, bah, tu vas rester ici, hein, tu vois, où voulez-vous aller? Et voilà, c'est pour ça que j'ai toujours vécu avec ma mère. Elle est décédée à 103 ans il y a 10 ans. Ma mère, c'était tout. Elle le passait avant moi, elle le passait avant mes enfants, elle le passait avant tout le monde. C'était une femme formidable. Mon père aussi, qui a fait la guerre de 14 et qui s'est beaucoup illustré, a travaillé 54 ans à l'EDF. Il a eu la grande médaille d'or à la salle Wagram à Paris avec Palme. Moi, j'ai travaillé 45 ans. Mon métier, je dirigeais 3 sociétés dans l'agroalimentaire. D'abord, chef comptable, et les 20 dernières années, j'avais une 10aine de comptables sous mes ordres.
Dites-moi, juste Marie-Françoise, vous allez vivre à ce moment-là, rue du Colonel ou rue du Lieutenant?
42 rue Lieutenant de Péréquy, pas très loin, là, à 800 mètres d'ici. Ah ben, c'est une maison que confortable, surtout qui est remplie de souvenirs. J'ai vécu 65 ans avec maman là. Elle est partout. D'abord, maman, c'était mon ange gardien. Elle est toujours avec moi, je lui parle toute la journée. Là-haut, je l'ai partout. Ici, je l'ai pas. Là-haut, je l'ai partout. Je peux plus aller au cimetière, même. J'ai plus la force. Je suis malheureuse.
Toute cette affaire a commencé quand?
Après la mort de maman. Ils m'ont écrasée.
Vous avez jamais hésité à signer des cautions pour votre fils, pour des prêts? Vous avez donné votre accord pour être
caution? Oui, il est vrai, c'est vrai. J'ai donné mon accord pour un prêt que le Crédit Agricole avait fait à mon fils en 92. De 300 000 francs à l'époque, 30 millions de centimes, pour création de commerce. Ça, c'est vrai.
La seule chose qu'il y a, c'est son fils. Lui, je lui en veux, je lui en veux à mort, à ce gars. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Il en veut à mort. Parce qu'il n'avait pas à faire ça à sa mère. Même qu'il voulait prendre un restaurant, la maison, il la faisait pas toucher, la maison. Voilà, c'est tout. Quand on a la folie des grandeurs, il faut savoir se ménager, il faut savoir gérer les choses. Voilà, pas s'en prendre à une pauvre mamie qui savait plus où elle était et il a profité de sa faiblesse. Hein. Voilà. Hein, c'est pas faute qu'on lui faisait toucher du doigt, mais l'autre, lui, nous, on disait blanc, donc il passait derrière, il disait noir. On l'a conseillé, mais lui, il lui faisait entendre ce qu'il voulait. Hein. Bon, tout en étant intelligente et qu'elle était comptable, mais il y a des choses que... Parce que moi, encore samedi, quand je l'ai vu que je partais au chat, que je nourris en bas de la rue, je lui ai dit, il m'a dit non, 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 il n'y a pas de problème, c'est rénal, elle restera là. Elle me dit, quand elle est partie, je dis, Raymond, je te fais remarquer qu'elle est plus là, ta mère. Hein. Qui s'en veut? Je pense pas. Hein. Qui s'en veut? Oui, parce qu'il sait qu'il est montré du doigt. Mais s'il savait ce qu'il faisait, donc il avait à réagir avant. Hein. C'est tout.
Le fils de Madame Bonanotte.
Raymond Tognetti, le fils.
Voilà.
D'accord.
Ce qui se passe, c'est que on est tous dans l'angoisse, parce que même moi, je suis à la rue, ma mère est à la rue, bon. Et donc, l'important, c'est que ma mère, elle a subi un gros choc, bien entendu, et que surtout, elle a ce sentiment d'injustice qui est que ça a été fait avec des dysfonctionnements de la justice varoise, et surtout que pour moi, on a été lésés, quoi. On est escroqués. C'est ça.
Alors, très simplement, tout commence comment? Vous, votre profession, vous êtes de l'hôtellerie, c'est ça, de la restauration?
Voilà, j'ai travaillé que dans l'hôtellerie.
D'accord.
Voilà. Donc,
Un jour, votre rêve, c'est d'ouvrir un restaurant.
C'est-à-dire, moi, j'ai travaillé à Paris, j'ai travaillé Boulevard Saint-Michel, j'ai travaillé Gare du Nord, j'ai fini chez Rothschild à la table d'hôte. Comme barman, comme assistant de direction, je m'occupais de tout, quoi. Quand vous avez 30 ans d'hôtellerie derrière vous, on dit, on va créer sa petite affaire. Et c'est là que les soucis commencent.
Beaucoup de gens aujourd'hui trouvent que vous n'auriez pas dû engager votre mère aussi loin dans ses affaires, dans vos affaires,
en prenant
un risque. C'était un risque.
Non, il n'y avait aucun risque. Et si vous voulez, cette maison n'avait jamais été engagée. Donc les risques, c'est que quand le Crédit Agricole nous a débloqué ces plusieurs prêts, ils nous ont fait traîner. On a bataillé pour les obtenir. Donc on perdait du temps et on ne travaillait pas et on remboursait les échéances. Donc ils nous ont bloqués sur la trésorerie. Ils savaient très bien qu'un jour ou l'autre, ils allaient nous bloquer. Voilà. Mais je me sens responsable d'avoir été l'instrument de ces gens-là. Si je me serais pas levé le matin pour pas travailler, ma mère, elle ne serait pas là et on serait tranquille. On aurait 3 appartements qui nous rapportaient un viager de 3 millions de francs qu'on aurait vendu. Tout le monde serait à l'abri. Vous voyez? Et on en arrive là. On en arrive à ce stade-là, à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il nous reste plus rien. Le RMI de ma femme et moi, je me bats. Et c'est moi qui suis le plus malade quand même. Enfin, hormis sa santé, moi je suis malade, je vous dis, d'en être arrivé là, quoi. C'est ça le problème. Mais ma mère, c'est une personne qui mérite du respect. Et j'ai vu que là, on l'a pas respecté, on nous a traités comme des malpropres, alors que les véritables escrocs, ils sont de l'autre côté.
Bon, ben, je vais voir le préfet, voir ce qu'il en dit, lui.
Vous pouvez lui dire que je suis à sa disposition, qu'il m'entende. Vous avez saisi quand même l'affaire? Hein, c'est... Vous avez saisi?
Oui, enfin pas vraiment, mais oui. Bon, en gros, on a compris que Raymond Tognetti, c'est le méchant. Alors, il y a d'autres. Vous avez un choix de méchant dans cette affaire, hein. Vous avez le fils, c'est un méchant. Vous avez la banque, le Crédit Agricole, qui n'a pas voulu échelonner la dette. Bon, ça fait partie des méchants. Vous avez les marchands de biens. Les marchands de biens qui ont acheté la maison quand même au dixième de sa valeur. Là, vous pouvez les mettre parmi les méchants, avec écrit avec vautour écrit sur le front. On nous a dit ça, les marchands de biens, avec le mot vautour écrit sur le front. Et puis, vous avez évidemment les expulseurs. Expulseur, c'est un beau métier. Hein. Ah, rien que pour la ville de Toulon, vous avez une centaine d'expulsions manu militari par an, rien que pour la ville de Toulon. Alors, ça fait quand même pas mal de travail, ça, hein, avec la spéculation immobilière, l'augmentation des loyers, l'absence de politique de logement social. Voilà, un métier d'avenir expulseur. Bon, là, on va voir le préfet du Var, qui reçoit Olivia Gesbert, qui s'appelle Pierre Dartout, et qui nous parle sans langue de bois aucune.
Nous voyons arriver, par exemple, dans les bureaux de la préfecture, chaque année, à peu près 1000 dossiers. Et sur ces 1000 dossiers, il y en a à peu près la moitié pour laquelle il y a une demande de concours de la force publique. Et au total, c'est le cas en 2004, il y a une centaine de concours de la force publique qui sont autorisés. Moi, j'assume les responsabilités en ce qui concerne le pouvoir de l'administration. Et pas d'autres, je n'ai pas à commenter les décisions de justice, ni à les aménager, ni à les corriger. Bon, dans cette affaire-là, il n'y a pas eu de déshumanisation. Il y a eu effectivement des décisions qui ont été prises vis-à-vis d'une dame qui est tout autant que toute personne digne d'intérêt et mérite notre considération. Et cette dame a pu souffrir. Tout cela vient d'un long processus si elle souffre. Et nous ne sommes pas à l'origine de ce processus. Bon, les choses eussent été différentes si elle s'était, par exemple, acquittée d'un loyer pour demeurer installée dans la maison en question. Bon, c'est un autre cas, si vous voulez. C'est pas tout à fait la même situation.
Et cette possibilité-là, par exemple, est inenvisageable?
Pourquoi pas? Il faut que... comment dire, que les personnes discutent, se rapprochent, et éventuellement, ça peut être une solution, oui.
Vous avez tenté de faire pression sur les acquéreurs de la maison pour que cette solution soit au moins envisagée?
Je ne répondrai pas à cette question.
Et pourquoi donc?
Parce que pour l'instant, je ne fais pas de pression. Je peux éventuellement prendre des contacts, mais... Effectivement, nous sommes en train d'examiner depuis l'autre jour, toutes sortes d'autres solutions possibles. Mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant.
Sur les autres solutions non plus?
Non, mais vous avez commencé à en dévoiler une. Mmh. Écoutez, je vous laisse le soin de le dire.
Ce que je trouve juste en fait fou dans cette affaire, c'est qu'on se retrouve effectivement, il y a tout un processus avant d'en arriver là, mais à chaque échelon, j'ai l'impression que chacun est désolé de ce qui arrive et trouve que finalement ce qui arrive à ces dames n'est pas très humain. C'est-à-dire que le commissaire dit qu'il n'avait pas envie de faire ça, qu'il avait du mal à le faire, que ça lui a tordu les boyaux de le faire. L'huissier dit la même chose. J'imagine que le sous-préfet ou le préfet qui a dû signer cet arrêté d'expulsion a dû faire ça la même mort dans l'âme. Alors on a une espèce de succession de petites, lâchetés humaines en conformité avec la législation.
Non, je ne vous permets pas de dire que de notre part, il y a une lâcheté humaine.
Mais bien sûr qu'il y en a.
Je trouve que cela, c'est vraiment exagéré. Parce qu'il y a une responsabilité collective de l'État, mais la responsabilité collective de l'État n'affranchit personne de sa propre responsabilité individuelle.
Il y avait à un moment donné 350 tortues.
Je crois que le chat s'est pris la patte dans le fil de la fenêtre.
Oui.
Oui, 350 tortues, elle avait la vieille dame, bah oui, pourquoi pas. Et pas mal de chats et pas mal de chiens et tout ça. Voilà, une vieille dame expulsée donc ce lundi 10 octobre et qui a ému évidemment à juste titre non seulement la région mais toute la France au vu de ces scènes absolument indignes. Alors si vous avez bien compris, le préfet du Var a transformé Olivia Gesbert en petite télégraphiste pour aller porter le message. Il y a un arrangement possible. Les marchands de biens, les vautours propriétaires de la maison seraient amenés à accepter que la vieille dame rentre chez elle, mais comme locataire, non plus comme propriétaire. Ils sont eux les propriétaires. Je rappelle qu'ils ont réussi à acheter cette maison au dixième de sa valeur. Mais voilà, la dame pourrait être locataire chez elle et ce serait une fin. Alors voilà des gens, c'est extraordinaire, hein. Des marchands de biens avec écrit vautour qui tout d'un coup sont frappés par la grâce. Il y a un rayon qui tombe du ciel, qui les frappe droit au cœur et ils éprouvent une compassion pour cette dame et disent au préfet, allez-y, oui, on va accepter ça. C'est un miracle formidable. Sinon, on a vu ce préfet qui fait son travail de préfet, c'est-à-dire ces hommes qui sont droits dans leurs bottes. Alors, il y a des mauvaises langues, vous savez, dans ce genre de choses, il y a toujours des mauvaises langues qui suggèrent que peut-être le préfet aurait reçu des consignes de sa hiérarchie venant de très très haut. Mais ça, ce sont des rumeurs qui continuent évidemment de courir dans un quartier, dans un voisinage très ému.
Eh ben moi, ce qui me paraît le plus scandaleux, c'est qu'on lève une mémé comme ça de 80 ans, de chez elle, de ses meubles, de tous ses souvenirs. Et puis, bon, ben voilà, on met tout à la porte. Et puis, c'est vrai, moi, ça me révolte, ça. Alors,
votre prénom, vous m'avez pas dit.
Alors, moi, c'est Serena.
Et alors là, vous avez dans les mains de la nourriture pour les animaux?
Voilà, pour les minous qu'elle nourrit, là, les petits minous malheureux qu'elle nourrit tous les soirs et tous les matins. Sa petite vie, c'était ça.
Elle était bien aimée dans le quartier?
Oui, oh là là. Oh là là, voilà, vous pouvez passer partout. Elle était aimée, adorée. Elle me demandait n'importe quoi. Je l'emmenais à droite, à gauche. C'était... Ah ouais, c'est incroyable. C'est une mamie comme ça, elle était trop. S'ils étaient humains, ceux qui ont acheté, hein, s'ils ont des parents, je sais pas, ils doivent avoir des parents,
Eh ben, il la laisse comme locataire. Mon Dieu, elle a 80 ans. Même qu'elle vive 20 ans, c'est insalubre dedans. C'est invivable. Si vous voyez comment c'est invivable. Il n'y a qu'une femme comme elle qui peut vivre dedans parce que c'est la maison de sa famille.
C'est un quartier chic, ça, de Toulon,
oui.
Ou pas?
Ah oui, quand même. Si, si. C'est quand même, l'avenue Ortolan, c'est quand même, non, c'est quand même, oui. C'est un beau petit quartier, hein, mais elle, si vous voulez, dedans, ce qu'elle a, elle a plus d'eau chaude, le chauffe-eau, il marche plus, elle a pas fait de travaux, parce que bon, financièrement parlant, elle avait pas trop d'argent, donc je vais vous dire, le gars qui va la retaper ou qui va la revendre, il a vu arriver le coup, il s'est pas trompé, hein, de cible, hein, quand il a vu la mamie. Hein.
Mais même le maire de Toulon, quand même, qui faisait pour les personnes âgées avant.
L'ancien ministre aux personnes âgées. Hein.
Voilà, c'est faux, c'est atroce. Enfin, moi, je dis le mot, c'est atroce. C'est atroce. Après, on parle des personnes âgées, de les aider, c'est honteux. On parle tant qu'on doit aider les personnes âgées.
Mais oui, hein, c'est ce qu'elle a dit, même Chirac, toujours à la télévision. Elle a dit, il faut qu'ils vieillissent et qu'ils restent chez eux dignement. Mais voilà, qu'elle donne l'exemple, là. C'est la maison.
Elle est malade.
Ah, moi, j'en suis malade, moi.
Ah oui, vous craquez. Hein.
Moi, je suis au-dessous, j'entends plus les chiens, je n'entends plus appeler. J'ai l'impression d'être coupée du monde. Je vois ces chats qui sont derrière la porte, qui miaulent, qui coiffent, qui vont ouvrir la porte, et que je vois que ça ne va pas s'ouvrir. Ah non, attendez, c'est odieux. Il n'y a pas d'autre mot, c'est odieux. Là, ça serait ma plus belle joie, ça. Vous voyez, ma joie, ça a été quand j'ai marié mon fils, mais alors, ça serait de revoir la mamie revenir. Hein.
Ah. Alors, les affaires cependant avancent. On retrouve avec Olivia, maître Ravaz, qui est l'avocate de la vieille dame.
Pour vous résumer l'affaire, c'est une dame qui a travaillé toute sa vie, qui a élevé deux enfants. Elle était cadre, elle était comptable dans une grande entreprise, et elle avait un patrimoine qui lui venait de ses parents. Et son fils Raymond a voulu ouvrir un commerce. Il a fait un prêt, elle s'est portée caution. Le fils a fait de mauvaises affaires. Et les banques, plutôt que d'essayer de l'aider et de vendre le patrimoine, un appartement ou deux à des prix corrects pour payer les emprunts, a liquidé, a bradé tout le patrimoine. Et le résultat, donc, c'est que aujourd'hui, finalement, le prêt n'est pas remboursé. La maison a été bradée aux enchères publiques. Elle est revenue à quatre marchands de biens qui l'ont acheté 47 000 euros, alors qu'elle en vaut au moins 300 000 euros.
Donc, 47 000 euros, 300, plus 300, un petit peu plus de 300 000 francs, hein.
Enfin, à peu près. Comment elle était vendue? C'est Gisèle. Allô? Oui, ça. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il dit? Mais il est au courant? Comment il est au courant? Non, il va pas exploser tout le monde. Mais faut pas lui dire, Gisèle. Non, il faut pas lui dire, Gisèle. Il va pas exploser tout le monde, hein. C'est pas question, ça. Est-ce que vous avez le bail? Bon, ben, je viens, hein. Je viens tout de suite. Il veut pas qu'elle signe le bail. Il veut exploser tout le monde.
Alors, c'est Raymond, hein, le fils, ouais, on est d'accord. Pour comprendre, les propriétaires, les quatre marchands de biens auraient fait une proposition de bail.
Voilà. Et ça, c'est la préfecture qui organise tout ça, qui intervient en tant que médiateur. Et ça, c'est super, hein, parce que c'est ce qu'il fallait. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y en a pas d'autre. Pour moi, c'est déjà un miracle.
Bonjour.
Mon frère, il va descendre.
Bonjour.
Hein,
on fait le maximum. Bonjour.
Le maximum, bonjour.
Je fais ces découpes aussi.
Ne t'énerve pas parce que le docteur...
Non, mais c'est une machination.
Mais je vais vous apporter les papiers à signer, hein, pour que vous retournez dans la maison. Alors, vous allez les signer, asseyez-vous là.
Marie-François. Je ne signe rien,
mais c'est pour retourner dans la maison.
Je m'en manque. Moi, je veux retourner de mon propre gré et que la justice soit à mes affaires et la juge en prison à vie.
Mais Marie-François, c'est... Mais comment on va faire autrement?
Non. Je veux lire.
Bon, ben, lisez, mais asseyez-vous d'abord.
Non.
Asseyez-vous.
Non.
C'est pour retourner dans votre maison.
Je ne signe rien. On m'a assez eu avec les signatures.
Mais c'est pour rentrer chez vous, Marie-François.
Non.
C'est pour rentrer chez vous.
Contrat de locataire. Mais je ne suis pas locataire. Je ne suis pas locataire. Je suis propriétaire. Ils sont propriétaires de rien. Qui est-ce encore cela, les propriétaires?
Ben, c'est ceux qui ont acheté la maison.
Qui c'est les propriétaires, là?
Ben, les quatre sociétés.
Hein? Cadre? Mais vous m'en parlez pour une fois.
Non, mais Marie-Françoise, il ne faut pas vous énerver.
Mais qu'est-ce que c'est,
mais Marie-Françoise, on ne va pas y arriver.
Mais ils vous ont acheté.
Non, ils ne m'ont pas acheté.
Mais ils vous ont acheté,
c'est la raison.
Alors, ça suffit. Je veux plus rien entendre, hein.
Pas de
tenue. Pas la peine. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Raymond, descends immédiatement. Descends immédiatement. On va me faire signer un bail.
Mais non, qu'est-ce que... On le signe pas, le bail.
On va me faire...
Elle le signe pas, Raymond.
Alors?
Alors, attends, passe-le-moi. Bon, Raymond, pas besoin de s'énerver. Parce que moi, je vais porter plainte contre toi.
Mais qu'est-ce que c'est, cette machination, encore? De pire en pire.
Laisse tomber, Raymond vient te chercher, hein? Et moi maintenant, je me retournerai contre lui si t'arrives quelque chose. Et qu'il sache bien que il ira en prison.
Il va vous arriver quelque chose si ça continue.
Oh non, non, je ne retournerai jamais chez moi avec ces conditions-là.
Elle veut pas signer un bail, on s'en fout.
L'avocate Travasse par la
réponse
de Marie-Françoise qui s'oppose à ce qu'elle signe ce contrat de location.
Non.
C'est pas un compromis, c'est une mesure de sauvegarde, c'est une mesure de sagesse et de bon sens. Raymond, votre maman, c'est impératif qu'elle rentre chez elle. Tous les moyens, donc ça c'est un moyen légal, parce qu'autrement, il n'y aura pas d'autres moyens. Alors vous en porterez la responsabilité. Raymond, écoutez-moi, elle peut rentrer chez elle cet après-midi.
Non.
Oui ou c'est non?
Oh. Mais qu'est-ce que c'est ça, ce qui se passe, ces machinations infernales? Mais il y a de quoi devenir fou! Mais il y a de quoi devenir fou!
Je vais essayer de l'expliquer. Hein.
D'accord, hein? Je reste là, parce que si elle se décide... D'accord.
Non, vous êtes le médecin de la préfecture?
Oui,
vous êtes
police, préfecture.
Attaché à la préfecture?
Oui, mais toujours au ministère de l'Intérieur.
Quelle est votre fonction générale?
Expertise, avis technique.
Ah, d'accord.
Allez, je vais lui faire un peu de l'écho,
là. Madame Bonanetto, écoutez-moi. Allez, faites-le.
Je ne peux plus voir mon avocat.
Non, c'est
elle a signé avec une autre diable.
Là, le médecin est arrivé et il s'occupe, il essaie de la calmer un peu.
Madame Bonanetto, écoutez-moi. Est-ce que vous voulez retourner chez vous, oui ou non?
Oui, mais
là,
dans
moi, si, bientôt, hein, on va déjà rentrer chez vous, Madame Bonanetto. C'est le premier. Attendez, ne me dites pas non. Personne ne peut vous faire sortir. C'est fini quand vous rentrez. Et on mènera le combat après. Menez le combat de chez vous. Allez, buvez votre lait maintenant. Buvez votre lait.
Ça fait toujours que ça pinaille. Moi, je leur ai dit qu'il fallait pas la mettre Ravasse. Je leur ai dit qu'il fallait pas la sortir de la maison, que ça, elle a pété les plombs, c'est sûr. Elle est tellement malheureuse. Tellement malheureuse. C'est terrible, hein. Je me souviendrai toujours du cri qu'elle a poussé quand elle a compris qu'elle devait partir. C'était terrible, hein, des cris, des larmes d'enfant, hein, pour partir de sa maison. Elle est partie, vraiment, elle a eu un choc, là. Elle a eu un gros choc. C'était évident qu'il fallait pas. Il fallait pas la sortir de sa maison. On aurait pu trouver des solutions avant. Et moi, j'imaginais pas qu'on la jette dehors juste avant l'hiver.
Là, sa fille Gisèle et le médecin de la préfecture sont en...
Essaye de la convaincre. Tout le monde essaye de la convaincre. Mais... il faut effacer tout ce passé de son esprit. Elle a 80 ans, il faut tenir compte de son âge.
Voyons voir si les choses évoluent.
Jamais.
C'est donc Gisèle, la fille de Madame Bonanetto, qui appelle les quatre marchands biens pour leur prévenir que la signature du contrat.
Non, j'avais appelé personne.
N'aura probablement pas lieu aujourd'hui, parce que sa mère refuse de signer et... et que donc elle signera pas le contrat de bail aujourd'hui.
Bon, maman ne veut pas signer, on ne peut pas l'obliger à signer, voilà. Elle souhaite rentrer chez elle comme avant, comme elle était chez elle, mais pas en tant que locataire. Ça, elle ne peut pas l'admettre.
Aujourd'hui à 15h09.
Allô, bonjour, c'est Christine Ravasse. Je vous appelle pour Marie-Françoise. Ça y est, elle est dans sa maison. Tout va bien, elle est heureuse et elle remercie tout le monde du fond du cœur. Elle est certaine que c'est grâce à vous tous, les médias et tout le soutien qu'elle a obtenu, qu'on a réussi ce petit miracle, parce qu'elle revient de très loin. C'est une rescapée. Bonne soirée. Au revoir.
Alors voilà, vous avez compris, vous étiez au courant d'ailleurs pour la plupart, cette affaire s'est arrangée. Il n'en reste pas moins que le geste, évidemment, d'expulser une vieille dame reste absolument indigne et il faut pas l'oublier. Mais enfin, on a quand même trouvé une solution, un petit miracle, comme dit l'avocate. Il y a eu mobilisation, il y a eu médiatisation, il y a eu pression de l'opinion et donc solution. Et alors, ça, c'est encourageant. C'est encourageant pour des personnes qui, dans la région, non loin de là, placées aussi sous l'autorité de la même préfecture, du même préfet du Var, des gens qui sont dans une situation, eux aussi, délicate, ils risquent d'être expulsés. Il y a des ordres d'expulsion qui sont pris contre eux. Il s'agit d'une quinzaine de travailleurs algériens qui sont absolument en règle, qui sont locataires depuis 1987 d'une maison et d'une caravane louée par la mairie de Carqueiran, dont le maire est Marc Giraud, UMP, et il y a un risque qu'ils soient expulsés. Mais on voit qu'il suffit de mobilisation, médiatisation, pression de l'opinion et solution, donc on est optimiste. Voilà comment Christine Ravaz, l'avocate, décrit cette affaire.
Bonjour maître Christine Ravaz, vous avez défendu le dossier de madame Bonanato qui a retrouvé un logement.
Oui.
Et il y a aussi d'autres cas d'expulsion.
Dans la région de Toulon, à Carqueiran précisément, qui est une petite ville touristique située en bord de mer, il y a un très gros problème qui se pose car 15 travailleurs algériens qui ont des papiers en règle, qui ont travaillé toute leur vie dans des serres, certains sont très âgés et sont malades, sont en train d'être expulsés suite à un jugement du 18 mars 2005, alors que ces personnes ont toujours réglé leur loyer et qu'ils ont accepté de vivre dans un bâtiment très vétuste, non conforme aux règles de sécurité, d'une surface totale de 56 mètres carrés, et dans deux mobilhomes et une caravane. Et ils ont loué ces vieux bâtiments à la mairie de Carqueiran, qui a décidé de les expulser pour que le terrain soit vendu afin de réaliser une opération immobilière. Alors depuis des années, nous sollicitons un relogement pour ces 15 personnes dans deux appartements, hein, 15 personnes qui sont en situation tout à fait régulière, qui sont sous-locataires de la commune. Malgré ce fait, jamais la commune n'a proposé un relogement, alors que nous ne demandons pas 15 appartements, mais simplement deux appartements parce qu'ils veulent vivre ensemble, parce que toutes leurs familles sont en Algérie, et ce qu'ils veulent, c'est terminer leur vie en France. La plupart sont âgés, sont à la retraite et certains sont gravement malades. Alors le problème est que la mairie de Carqueiran n'a pas prononcé un arrêté d'insalubrité car la mairie aurait été obligée de reloger ces personnes. Et ces personnes sont logées depuis 1987 exactement dans ces conditions. Au départ c'était temporaire, mais ce temporaire a duré. Et jamais depuis 1987 un relogement leur a été proposé. Alors qu'ils ont travaillé à Carqueiran, dans les serres, et qu'ils ont toujours réglé donc toutes leurs charges, leurs impôts, et qu'ils se sont toujours comportés d'une manière exemplaire. Alors là, le compte à rebours est enclenché parce que nous ne sommes pas prévenus très longtemps à l'avance de l'expulsion, car maintenant c'est le préfet. Tout est entre les mains du préfet du Var, qui va soit accorder la force publique, soit la refuser. Alors, la mairie refuse de construire des logements sociaux. Le maire de Carqueiran a fait ses déclarations publiquement. Il préfère payer des amendes plutôt que d'avoir des logements sociaux sur sa commune. Donc, il n'y a aucun relogement qui est actuellement envisageable pour eux. On a fait venir ces gens pour qu'ils travaillent dans les serres. Et puis maintenant, on va les expulser, on va les mettre à la rue sans rien. Ce sont des gens qui sont fatigués, ce sont des gens qui sont faibles et ce sont des gens dans notre département du Var que l'on n'aide pas. Quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit son origine, c'est la vulnérabilité de la personne qui mobilise. On n'aime pas l'injustice. On s'est aperçu à l'occasion de l'affaire de Madame Bonanato qu'il y avait beaucoup de solidarité et qu'il y a eu un grand élan de fraternité. Et c'est la préfecture elle-même, sous pression de l'opinion publique, qui s'est mise en quatre pour qu'un bail d'habitation soit signé avec les marchands de biens qui n'avaient pas du tout cette intention. Et maintenant, je crois que c'est la préfecture du Var qui pourrait continuer dans son action, car la préfecture, c'est l'État, c'est nous tous. Donc, c'est la préfecture qui devrait imposer à la mairie de Carqueiran de prendre un arrêté d'insalubrité concernant ses logements et de reloger immédiatement ces 15 personnes ensemble. Il n'y a que la préfecture qui puisse jouer le rôle de médiateur d'imposer cette décision au maire.
Ça va, c'est pas la java, mais ça va. Et vous, ça va, c'est pas l'opéra, mais ça va, oui, ça va.
Vous êtes 15 personnes et depuis combien de temps vous vivez ensemble dans ce lieu?
87. C'est-à-dire, il y a moi, il y a Sakta, il y a Bourzama, il y a
il y a de Louis, il y a beaucoup de noms là, c'est pas rien que moi. Ils sont tous des Algériens, ouais.
C'est une vieille maison.
Voilà.
Et vous avez chacun une chambre et
Non, c'est pas chacun sa chambre. Il y en a qui sont deux, il y en a qui sont trois sur la chambre. Il y a un bungalow, c'est avec. Il y a un bungalow, il y a un caravane. Voilà. Il y a de l'eau, il y a la salle de bain, mais il n'y a pas de l'eau chaude, c'est tout. Des fois, on le répare, la chaufferie, la robot chauffer l'eau. Mais il y en a des fois, il n'y en a pas.
Vous faites quoi dans la vie, monsieur Nera?
Je travaille dans la maçonnerie, je suis maçon.
Vous avez une femme et des enfants?
Non, la femme et les enfants, ils sont en Algérie, ouais.
Et donc,
ils sont tous, les noms que je vous donnais, ils sont tous à l'Algérie, les enfants. Nous, on vit seuls ici.
Et dans ces conditions-là, c'est impossible de les faire venir?
Non. Il y en a beaucoup qui sont déjà à la retraite. Sur 15, il y en a, je crois, 8 ou 10, côté de 60 ans, ouais. On attend le logement toujours.
Depuis 87.
2002, le maire de Carqueran, il voulait nous expulser de cette maison-là. Il a dit, j'ai pas de maison, il faut partir, c'est tout. Bah, excusez-moi, parce que moi, je suis sur le boulot, parce que...
D'accord, je vais pas vous déranger plus que ça.
Au revoir. Ça va, c'est pas la Java, mais ça va. Et vous, ça va, c'est pas l'opéra, mais ça va, oui, ça va.
Le maire de cette petite ville de Carqueran, qui préfère payer des amendes plutôt que de construire des logements sociaux, vous en souviendrez dans les reportages qu'on présentera demain et lundi. Là, ça se passera à Neuilly, et à Neuilly aussi, on préfère payer des amendes que de construire des logements sociaux. Vous avez vu, c'est une histoire qui s'est arrangée, et nous n'en doutons pas, il y aura la même mobilisation, la même médiatisation, la même pression de l'opinion, et la même solution pour ces travailleurs algérien. C'était un reportage d'Olivier Gesbert avec Pascal Le Pascariello. Merci à Marie-Françoise Bonanato, à Gisèle, à Raymond, à Marie-Christine Ravaz et merci à la préfecture du Var, coordonnée de la préfecture du Var, si jamais vous aviez envie de décrire, boulevard du 112e régiment d'infanterie à Toulon, 83 000 Toulon. Et le téléphone, si jamais vous avez envie de passer un petit coup de fil, c'est le 04 94 18 83 83. Pour les repères de la base, si j'y suis, toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France, www.radiofrance.fr, chaîne France Inter, à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos. C'est Antoine Chao et Yann Chouquet qui ont réalisé cette émission, assistante Pascal Pascariello. Le répondeur, c'est Christophe Imbert, et le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. Le mail, daniel.mermer@radiofrance.com. Réclame.